Quand on voit le contexte argentin et par les pays dans lesquels tu es passé, où tu as redressé des situations financières, en tout cas en l'occurrence en Argentine, catastrophiques, est-ce qu'il y a une méthode, Rami, qui consiste à communiquer, à fédérer, à soulever un peu les équipes? Est-ce que tu considères qu'il y a une méthode, Rami, qui consiste à être capable de passer d'une situation dans le rouge à une situation dans le vert?
Il y a une méthode que je ne peux pas qualifier de Rami parce que moi, je l'ai appris à gauche, à droite, des livres, de l'histoire, J'aime beaucoup l'histoire, donc voilà.
Tu t'inspires de certains éléments.
Je m'inspire, effectivement, voilà. Donc, ce n'est pas ma méthode. Moi, c'est juste une collection de quelques pratiques, quelques valeurs que je mets en œuvre. Maintenant, peut-être ce qui me différencie, c'est le courage managérial qui me permet de dire « c'est comme ça ». Et c'est cette différence-là que des fois, on ne trouve pas chez les dirigeants. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé en Argentine, le pays perdait 90 millions d'euros. Et donc, je parlais avec les dirigeants, les cadres supérieurs qu'on appelait « above the store ». J'ai dit « pourquoi on perd de l'argent ?» Ils m'ont dit « c'est à cause de l'inflation, la corruption, le foot, la taille du pays. » Mais jamais à cause de nous, quoi. Donc, que des facteurs externes. On ne nous a pas laissé faire. Le prédécesseur est mauvais.
Que des facteurs externes.
Voilà, que des facteurs externes et que de la critique. Et moi, je fais quoi? Donc, j'ai un doigt qui dit c'est la faute de l'autre et j'ai trois doigts qui disent c'est ma faute à moi. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et donc, et quand on voulait accuser l'interne, on accusait le pauvre employé qui encaisse.
Qui n'a pas d'impact.
Le boucher, qui a beaucoup d'impact, mais sincèrement. Avant d'accuser cet employé, et moi, le dirigeant, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis responsable. Et le mot responsable vient d'un verbe latin, respondum, donc répondre. Donc quand je suis responsable, je dois répondre. Et la réponse, ce n'est pas en critiquant, en accusant les facteurs externes et les employés de base. Ce n'est pas comme ça. Moi, quand quelqu'un me dit « Oui, mais mon équipe, mais les magasins, ils ne comprennent rien. Oui, mais les caissiers, ils ne comprennent rien. » Non, s'il y en a qui n'a rien compris, c'est moi et toi. Parce que nous sommes responsables. Donc, en fait, tu vois, c'est ce courage managérial de pouvoir le dire de la manière la plus bienveillante possible
mais la
à
plus
un cadre supérieur
possible.
Que tu es responsable. Si tu as accepté de monter en responsabilité, eh bien, c'est parce que tu as accepté de donner de plus de réponses. Eh bien, maintenant, tu dois donner plus de réponses. Si ta réponse est de me dire « je ne peux pas, c'est difficile », bah merci, tu es en train de me dire que tu es incapable d'être responsable. Donc, tu vas bouger à droite et tu vas laisser ceux qui sont capables de prendre le poste. Donc, en fait, c'est à partir de là, il y a des responsables qui disent « ok, d'accord, donc je prends mes responsabilités et je vais apporter des réponses ». Puis, il y en a certains, effectivement, qui tombent en cours de route et puis qui reconnaissent ne pas avoir les compétences pour diriger des équipes. Et donc, des gens qui considéraient que le poste de responsabilité est un poste d'honneur au lieu que ce soit un poste de donneur. Moi, pour moi, le poste de responsabilité, c'est un poste de donneur. Je donne. Et ce n'est plus qu'un poste d'honneur. Après, l'honneur viendra. Il viendra. Mais ce n'est pas, c'est pas parce que j'ai les galons que ça y est, tout le monde me doit le salut tous les jours. Non, les gens me devront le salut le jour où moi, j'aurai fait mes preuves, effectivement, pour les gens.
Et je les aurai emmenés au succès. On va revenir sur tout un tas de choses que tu as dit. Avant ça... Ça m'intéresse de comprendre comment on se transforme à titre perso entre le stagiaire que tu étais et l'homme que tu es devenu après ces années. Tu parlais de communication, de marketing personnel, je ne sais pas si ça a été des leviers, mais comment on se transforme pour devenir le patron que tu as été à titre personnel, en termes d'apprentissage, en termes d'expérience, en termes de méthodologie, par quoi tu es passé qui t'a permis de te challenger à titre personnel et d'arriver aux fonctions que t'as eues.
Je me rappelle encore, j'étais stagiaire et puis on parlait avec les chefs de rayon, quelques copains, etc. Et puis il y en a un qui me dit « Toi, tu vas aller loin. » Et puis un autre qui me dit « Tu vas t'arrêter à quel niveau chez Carrefour ?» Tu veux rester chez Carrefour ?» Je dis « Oui, pourquoi pas ?» Il me dit « Tu vas t'arrêter à quel niveau ? Directeur régional ?» J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ?» Parce qu'en fait, à l'époque, pour moi, stagiaire, directeur régional, c'était vraiment
le Graal.
Le Graal. Je dis, est-ce qu'il y a des postes au-dessus? Il m'a dit, il y en a plein. Je dis, moi, je ne connais pas encore mon plafond. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne planifie pas que je vais atteindre tel objectif, tel poste à tel âge ou tel temps. Je n'ai pas du tout, en fait, la pression du temps. Je n'ai pas la pression du temps. J'ai la pression de faire les choses correctement, comme si c'était mon argent. Après, ça vient. Si ça vient, ça viendra. Si ça ne vient pas, ce n'est pas grave.
Mais tu as dû te développer à titre
et
personnel.
Donc, il y a une remise en question permanente. Donc, il y a cette volonté d'apprendre. Donc, moi, je n'ai jamais quitté l'école. La dernière fois où j'étais au banc de l'école...
Tu cumules pas mal de MBA, je crois.
Voilà. La dernière fois où j'étais au banc de l'école, c'était en juin dernier à London Business School. La fois d'avant, c'était à Harvard l'année dernière. La fois d'avant, c'était à Lausanne. La fois d'avant, c'était à Silicon Valley. Donc, la fois d'avant, c'était, j'étais au Japon. Donc, l'apprentissage permanent. Je n'ai jamais considéré que ça y est, j'ai la science infuse, maintenant, c'est réglé. Deuxièmement, la lecture. Troisièmement, la remise en question. En disant, ça, c'est mauvais, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Avoir un alignement avec moi-même pour que je puisse préserver mon énergie. Et aussi, l'apprentissage s'accompagne d'une dose d'humilité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, plus on monte en savoir, parce que le savoir, c'est le pouvoir, c'est la supériorité. Et la supériorité nous fait tomber dans l'arrogance. Et l'arrogance, c'est le début de la fin. Donc, justement, pour avoir les bienfaits du savoir, sans avoir l'effet inverse, donc, je veux le savoir, je veux l'apprentissage, mais avec une dose d'humilité en face. Cette dose d'humilité, je peux l'avoir en vivant de manière plus proche avec le terrain. Tu as parlé du terrain tout à l'heure. Une fois, j'étais... donc, on a des comités exécutifs avec les dirigeants, etc. Donc, moi, je suis directeur de pays. Et donc, j'ai mes N-1, ce qu'on appelle le COMEX. Donc, j'ai dit au COMEX, on ne va pas faire des réunions dans un bureau. Le matin, on va commencer les réunions par une heure de vivre ma vie. Et donc, ce jour-là, on est parti dans un magasin, aux Ulysses, dans le 91. Et je me suis adressé à l'équipe de caisse. J'ai dit aux hôtesses et hôtes de caisse, j'ai dit, vous avez la pause pendant 40 minutes. C'est les membres du COMEX qui allons ouvrir maintenant les caisses et qui allons accueillir les clients. Donc, c'est la pause pour tout le monde. Donc là, elles étaient super contentes. Et donc, moi, j'ai demandé à mon équipe, je dis, chacun va prendre une caisse. On a porté le gilet et voilà. Donc, en fait, c'est un apprentissage s'accompagne toujours d'une proximité du terrain qui va nous rappeler l'humilité. Parce que l'humilité du dirigeant va l'éloigner de l'arrogance. Et là, il peut préserver son énergie de la manière la plus objective possible. Parce que la fin des empires, dans toute l'histoire de l'humanité, c'était à cause de l'arrogance. Okay. Il y a un livre qui dit « How the Almighty Fall », comment les colossaux y tombent. Eh bien, c'est l'arrogance. Et donc, on ne le voit pas au début, c'est un vice, une maladie qui pousse dans les sociétés ou dans les gens. Et voilà, dire « Ça y est, je deviens intouchable, je deviens machin. Attention à cela ». Attention à cela, il faut vraiment rester aligné avec les valeurs de l'apprentissage et l'humilité pour justement préserver son énergie et l'objectivité de ses actions.
Ok, et justement, ça me fait penser... cette partie valeur, elle est omniprésente chez toi. Je pense, toi, tu es très porté sur le management, sur la formation en règle générale. Tu as fondé notamment l'école des leaders au sein de Carrefour. C'est l'entité de formation du management. Quelle devrait être... les bonnes valeurs, tu en as peut-être répondu juste avant, mais les valeurs incarnées par un bon manager.
Un bon manager, c'est un manager qui écoute. Moi, je considère qu'on peut être tous bons, mais on sait quoi ? On sait 15%, 10% de la réalité. Notre cerveau nous permet d'en connaître combien sur notre entreprise, sur la situation, etc. 5-10%. On a un cerveau quand même finalement... limité, même si on est les plus intelligents. Je pense qu'on a besoin d'écouter. Je pense qu'on a besoin de faire l'éponge. Je pense qu'on a besoin de sortir de sa zone de confort. Et un manager, d'abord, la première qualité du manager, c'est donc d'écouter. Écouter pour apprendre. La deuxième qualité, c'est le courage managérial. Je pense que nos équipes, les clients, les actionnaires, l'environnement, les institutions, attendent des managers des positions claires et objective. Et pour cela, il faut avoir la nuance, mais du courage managérial. C'est très important, le courage managérial. Un manager doit avoir aussi une éthique indiscutable par rapport aux standards de la société et de l'entreprise. Un manager doit bénéficier d'une qualité de bienveillance. une dose d'exigence, deux doses de bienveillance. Parce que les équipes, c'est comme dans une salle de musculation. Si je veux me muscler le bras, ce n'est pas en un seul geste que je vais y arriver. Il faut répéter, répéter, répéter. Et des fois, on perd espoir. Mais à force de répéter, finalement, on y arrive. Et donc, en fait, c'est cette tolérance, cette répétition, cette bienveillance qui nous permet d'embarquer un maximum d'équipes. J'ai jamais aimé prendre un poste et virer tous les managers présents. Moi, j'aime prendre les mêmes équipes, aller chercher le meilleur de chacun. Parce que je suis convaincu qu'au fond de chacun, il y a un meilleur. Il faut trouver cette flamme, il faut l'allumer. Et ça, il faut travailler ça. Et je considère qu'un manager doit avoir aussi cette qualité de disruption. Il faut voir les choses différemment. Est-ce que je vais prendre le même problème de la même manière? Ou est-ce que je vais sortir et le regarder d'un autre angle? Donc, le manager, il a cette responsabilité. Et la question de l'école des leaders, c'est parti de ces caractéristiques où il y a une hôtesse de caisse en Argentine, elle me dit, j'ai un bac plus 2, je suis hôtesse de caisse, et comment je fais pour évoluer dans la société? Je lui ai dit, votre manager va vous repérer, et puis il va vous aider à progresser. Ben dit, nous, on est 130 caissières. Mon manager, le temps de nous repérer, il aura déjà changé de magasin. Et ça m'a fait penser à inverser la pyramide et dire, au lieu que ce soit le manager qui va repérer le collaborateur, j'ai souhaité à ce que le collaborateur s'auto-repère lui-même ou elle-même. Et donc, je lève la main, je dis, je pense avoir les compétences d'aller au poste suivant. Très bien, puisque tu le penses, eh bien, viens le prouver dans l'école des leaders. Tu vas apprendre pendant 8 mois des choses, tu vas passer un examen comme tout le monde. Si tu n'as pas une première chance d'aller dans une école, si tu ne viens pas d'une famille pour laquelle l'apprentissage est une grande valeur, si tu n'avais pas les moyens pour avoir la vie que d'autres peuvent avoir, eh bien, voilà l'école de la deuxième chance. Cette école de 8 mois qui est signée aussi, co-signée par une université locale. Et donc, ça va te permettre, effectivement, d'apprendre et de passer au poste suivant. Donc, on a inversé un peu la pyramide. Au lieu que ce soit le manager qui va repérer le collaborateur, c'est le collaborateur qui va s'auto-repérer. Et puis après, il va faire ses preuves pendant 6-8 mois.